Radio Kapi. Oh, Kapi.
Cette édition de la mi-journée sur Radio Kapi s'intéresse en premier à l'insécurité que décrit fortement les habitants de la ville de Kisangani. Tenez, en une nuit, 3 personnes ont été abattues, la population qui aura le bol et indexe l'inefficacité de la police. Nous vous parlerons également du fonds de réparation des victimes près la Cour pénale internationale. Les bénéficiaires directs et indirects se comptent à présent à 230 000 pour le cycle de 2008 à 2017. État de siège à Nitouri et au Nord Kivu, comment parvenir à mettre fin à l'activisme des groupes armés? La question est une fois de plus abordée dans cette édition avec Jacques Katembo, notre invité. Il est coordonnateur de la commission interprovinciale d'appui au processus de sensibilisation. Votre fidélité à cette fréquence fait de vous des auditeurs bien informés en toute équité et équilibre. Continuez donc à nous faire confiance. Mesdames et messieurs, bienvenue, bonjour à toutes et à tous. Bien avant d'aborder la nouvelle en rapport avec Kisangani, sachez que le président de la RDC, Félix Tshisekedi, est arrivé mardi 11 mai soir à Entebbe, en Ouganda, en provenance d'Addis Abeba, en Éthiopie. Le chef de l'État congolais va y assister à la cérémonie de prestation de serment des son homologues ce mercredi, indique la cellule de communication de la présidence de la République. Yoweri Kaguta Museveni est réélu à l'issue de la dernière élection présidentielle organisée dans son pays. Plusieurs autres chefs d'État y prennent part. Museveni est président de l'Ouganda depuis 35 ans. Il a remporté les élections générales avec plus de 58% des voix face à son challenger principal, Bobi Wine. Je vous l'ai dit tout à l'heure dans les titres, dans la province de la Tshopo, l'insécurité devient de plus en plus inquiétante dans la ville de Kisangani. 3 cas de meurtre y ont été enregistrés dans la seule nuit de lundi à mardi. Des sources proches de la police indiquent que des moyens nécessaires pour faire face à cette insécurité font actuellement défaut. Le point avec Jacques Moukonkole.
Tous ces cas de meurtre ont été commis la même nuit dans 3 communes urbaines différentes. D'abord dans la commune Kisangani où un taximène moto a été criblé de balles avant de se faire ravir son engin. Ensuite, sur les quais au beach back de l'office des routes. Ici, on a découvert sur une barge abandonnée le corps d'un homme adulte égorgé. Enfin, sur la 5e avenue Pumuzika dans la commune Tshopo, non loin de la Bralima, une femme a été retrouvée morte dans sa maison après avoir été poignardée à la nuque. Les auteurs de tous ces forfaits ne sont pas encore identifiés par les services de sécurité. Rappelons que le mois dernier, un taximène moto a succombé à ses blessures après avoir été poignardé par des brigands en pleine journée. Il avait été entraîné dans un guet-apens au jardin botanique par 2 jeunes filles qui avaient sollicité son service. Cette insécurité grandissante dans la ville ne laisse pas les boyomés indifférents. Des voix se lèvent pour dénoncer l'inaction de la police. Des sources proches de cette dernière déclarent que les moyens font défaut pour leur permettre de mener à bien leur travail. Puisque, souligne-t-elle, on ne sait à quelle autorité s'adresser pendant cette période de confusion politique. Jacques Mkonkole, Kisangani, Radio Kapi.
Au Nord Kivu, la question du rétablissement de la sécurité passe nécessairement par la protection de l'environnement. C'est l'avis de l'organisation Alerte Congolaise pour l'environnement et les droits de l'homme. Elle demande aux autorités militaires de la province de sécuriser le parc national des Virunga en anéantissant les dizaines des groupes armés qui ont fait cette aire protégée leur zone de prédilection. Maître Olivier Ndolé, secrétaire exécutif de cette organisation environnementale, estime que, coupés de leurs sources d'approvisionnement, certains groupes armés nationaux et étrangers seront obligés d'adhérer au processus de paix. Il est au micro de Rosalie Zawadi.
Il s'agit d'un groupe déjà, des nationaux, des étrangers, mais qui sont organisés autour de l'exploitation principalement des ressources de la carbonisation, d'autres pour les scieries, des industries, beaucoup plus de déforestation qui sont mises en place. Et tout ça, c'est ça leur projet politique, mais ils n'ont aucun projet pour ni prendre la ville de Goma, ni mettre en place des administrations locales, moins encore aller à Kinshasa. Et donc pour les aider à déposer les armes facilement, il faut pratiquement mettre une ceinture de sécurité autour du parc national de Virunga, sur le lac Édouard, mais aussi mettre en place des rétroprojecteurs communautaires qui vont permettre de bien surveiller toutes ces autorités de base qui se faisaient passer des roitelets et qui ne se soumettaient pas à la loi pour que, une fois pour toutes, cette question des groupes armés soit éradiquée au niveau de la province du Nord Kivu.
Sachez par ailleurs qu'Olivier Ndolé demande également aux autorités militaires de mettre en place un mécanisme sécurisé par lequel la communauté pourrait partager les informations avec l'armée pour ainsi arriver à un bon résultat à l'issue de la période de l'état de siège. À Beni, 4 élèves de l'Institut Bungulu ont échappé la journée de mardi 11 mai à un kidnapping. Selon les témoignages du responsable de cette école, deux hommes dont un en cagoule étaient à bord d'une voiture et voulaient embarquer ces élèves tous de la 7e année pour leur indiquer un garage qui pouvait les servir. C'est grâce à un enseignant qui est vite intervenu pour voir ce qui se passe entre ces inconnus et les élèves qui a réussi à récupérer tous les apprenants dont l'un était déjà à l'intérieur de la voiture. Vu qu'ils venaient d'être dénichés, ces bandits ont directement pris fuite. Face à cet incident, M. François-Xavier Paluku Kambessa, préfet de l'Institut Bungulu, appelle les élèves à plus de vigilance. Il est au micro de Guylaine Kassassia.
Nous affirmons cela, en tout cas, c'est une tentative de kidnapping. Nous n'avons cessé de parler à nos enfants depuis belle lurette que aussitôt que l'enfant se retrouve à l'école, il n'a pas le droit de quitter la concession. La situation qui nous est arrivée hier, c'est un tel cas que je pourrais me qualifier d'isolé parce que les enfants ne comprennent jamais, vous comprenez les tout petits. Nous ne savons même pas quand est-ce qu'ils sont retrachés de la salle de classe. Mais néanmoins, ils ont cette instruction qu'ils doivent se méfier de toute personne à identité inconnue, à moins que ça ne soit un membre de famille. Dans ce sens-là, les parents doivent nous aider à pouvoir chaque fois fournir à leurs enfants le logo, le signe distinctif de chaque école. N'eût été vraiment ce signe distinctif, notre enseignant pouvait aussi se passer de ces enfants-là et il y serait parti. Heureusement, grâce au logo, l'enseignant peut les détecter et les ramener dans l'enclos.
Nous sommes le 12 mai, c'est la journée internationale de l'infirmière et infirmier. Elle est commémorée cette année sous le thème « Profession infirmière, une voie pour diriger, une vision pour les soins de demain ». Dans un contexte mondial et national marqué par la pandémie de Covid-19, l'ONIC, Ordre National des Infirmiers du Congo, affirme avoir mis un point d'honneur dans la sensibilisation des infirmiers sur comment bien faire leur travail en se protégeant du virus et en évitant de les propager dans leur environnement familial. Mais pour lui, le Covid a démontré qu'il faut une nouvelle orientation même dans la pratique des soins infirmiers. Komba Djeko le dit au téléphone de Kiria Ambatia.
Covid est là aujourd'hui. Toutes les appréhensions, toutes les attitudes, ça a bouleversé. Ça n'a pas épargné notre pays, ça n'a pas épargné la profession infirmière. Nous avons rassemblé à plusieurs reprises les infirmiers pour leur dire comment la maladie se transmet, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter d'être contaminé, qu'est-ce qu'il faut faire pour éviter de contaminer d'autres. Nous avons fait ce travail-là. Ça demande non seulement des connaissances, mais ça demande aussi du matériel de protection. Cette maladie, elle est stressante, elle est traumatisante pour les infirmiers parce que la charge du travail a augmenté, les risques de contamination sont très élevés, donc le stress est très... on appelle ça un traumatisme de masse. Il faut donc, même au niveau de la formation, apprendre aux gens par rapport à la COVID, par rapport à d'autres maladies émergentes, il faut une nouvelle orientation de la formation, il faut une nouvelle orientation dans la pratique des soins infirmiers.
Parlons à présent de l'hôpital du cinquantenaire situé au quartier Caravia à Lubumbashi dans le Haut-Katanga qui est fermé depuis ce lundi. D'après le ministre provincial de la Santé, cette décision est motivée par les travaux de réhabilitation qui sont en cours. La réouverture est projetée pour le 1er août prochain. Cette structure médicale du secteur public avait été inaugurée tout étant inachevée. Le ministre Joseph Sambibulanda décrit la nature des travaux qui sont effectués. Il est au micro de Jean Gandou.
L'hôpital était inauguré avec des travaux non finis. La partie qui a été utilisée ces 7 dernières années a commencé à avoir des problèmes, notamment les fosses septiques qui n'étaient pas adaptées. Il y a la partie de la salle d'opération et d'autres pavillons qui ont commencé à avoir des fissures. Les travaux qui se font là ont deux objectifs, réhabiliter la partie existante et faire l'extension de la partie qui n'était pas finie. Il y a une grande morgue qui va être construite, la partie finalisée qui abritera le scanner, l'IRM et une autre notre parti qui aura des machines de dialyse. Nous voulons que cet hôpital puisse jouer un rôle important comme structure de référence qui va faire diminuer les expatriations médicales. Des médecins viendront de l'Inde, de l'Afrique du Sud et travailleront avec nos équipes, avec un équipement adéquat. Les gens pourront se faire soigner sur place. En envoyant des malades à l'extérieur, c'est une expatriation des capitaux. La province dépense beaucoup.
Nous sommes à présent au Kassai Oriental où on nous parle de du deuxième jour ce mercredi de la formation sur l'appui au renforcement des systèmes communautaires de protection et prise en charge des enfants. Plus de 200 personnes, parmi elles les membres de la société civile, autorités administratives et policières ainsi que les fidèles de l'église presbytérienne y prennent part. Cette rencontre de 4 jours est organisée à Kenakuna dans le territoire de Kabea Kamwanga par la coordination presbytérienne des œuvres auprès des enfants vulnérables. D'après le révérend pasteur Benoît Mingé Dichona, coordonnateur de cette structure, le but est de créer des mécanismes communautaires de prévention et d'alerte précoce sur les violences graves des droits des enfants vulnérables. Pasteur Benoît Mingé Dichona a été joint au téléphone par Esther Ndalafina.
Famille d'accueil transitoire, FAT, capable d'aider les enfants en situation difficile à bénéficier des conditions de vie qui favorisent leur réintégration sociale. Les familles d'accueil transitoire auront comme mission d'attirer en avant comme en aval l'implication de la communauté dans la protection de l'enfant contre les violations de ses droits. La mission des CAFD locaux implique également la sensibilisation de la communauté, l'alerte des cas de violation des droits de l'enfant, mais aussi l'identification, la documentation et l'accompagnement des enfants dans ces droits qui sont violés. Pérenniser les activités de protection des qualités des droits de l'enfant au sein de la communauté locale.
Le fonds de réparation des victimes près la Cour pénale internationale a atteint 230 000 bénéficiaires directs et indirects dans son cycle du premier projet de 2008 à 2017 dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu en RDC. Actuellement, ce fonds gère 3 affaires à savoir Germain Katanga, Bosco Tanganda et Thomas Lubanga. Ce dernier est dans un processus qui court jusqu'au 1er octobre 2021. Ceci ressort de l'évaluation faite ce mardi à Kinshasa au cours d'une session d'information sur la mise en œuvre du fonds au profit des victimes par les responsables de cette institution qui répare les victimes des crimes relevant de la compétence de la CPI. Reportage de Jeff Ngoy.
Richard Boudjou, assistant au programme du fonds, vient d'évaluer le travail de son institution de réparation des victimes. Et Mme Kizita Forgoué, responsable du programme de ce fonds, explique les mécanismes mis en place pour identifier ces victimes.
En fait, le fonds n'a pas réalisé un seul projet. Pour le premier cycle, il y avait un total de 16 projets. Et 230 000 bénéficiaires, ce n'est pas un effectif moindre. Ça, c'est un. De deux, le processus de réhabilitation n'est pas comparable au projet d'urgence. Il faut accompagner la victime dans une approche holistique, dans toutes les dimensions qui affectent les victimes.
En fait, il y a tout un système en place pour assurer que ce sont les victimes réelles, poser des questions très précises par rapport au préjudice que la victime a subi. Est-ce que des victimes ont des témoins, peut-être membres de sa famille ou bien le chef du village?
Les projets de réparation n'ont commencé qu'en 2019, celui d'assistance en 2008. Ils ont concerné les provinces du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, où le fonds a évolué avec différentes couches sociales. Il fait ainsi un plaidoyer pour des donations en provenance de bonne volonté.
Parlons à présent de cette plénière chaude et mouvementée lundi dernier à l'Assemblée provinciale de l'Équateur en Mbandaka. À l'origine, l'engouement des Mbandakais dans l'hémicycle. La plupart s'attendaient à la déchéance ou non du vice-gouverneur tel que souhaité par un juriste dans ses analyses sur les réseaux sociaux. Cependant, les députés ont procédé uniquement à l'adoption de l'ordre du jour et du calendrier partiel de leur session ordinaire de mars. Plus de détails avec Paul-Richard Malingela.
Edmond Bokolo, avocat au barreau de Mbandaka, a dans ses analyses estimé inutile et budgétivore l'actuel poste de vice-gouverneur de province en RDC, particulièrement pour le vice-gouverneur de l'Équateur, Taylon Keka, qu'il a trouvé invisible, d'où la recommandation de sa déchéance qu'il a formulée à l'organe délibérant, ce qui a engendré une vive polémique dans la presse locale en Mbandaka, jusqu'à attribuer à l'Assemblée provinciale l'existence d'une motion de défiance à son encontre. Mais le rapporteur de l'Assemblée provinciale, Peter Lopose, a tenu à fixer les esprits.
Jusqu'au jour d'aujourd'hui, aucune motion qui a été déposée au bureau permanent de l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Non pour les gouverneurs, non pour les vice-gouverneurs, moins encore pour les ministres provinciaux. Mais on a été surpris dans des chaînes locales. Les gens disent que les députés provinciaux marchent avec une motion dans des poches pour destituer le vice-gouverneur. Non, non, non. La motion de défiance, elle doit être déposée au niveau du bureau permanent de l'Assemblée provinciale et le bureau transmet la motion aux concernés pour sa défense et il y a un jour qui sera fixé. C'est ça la procédure.
Par ailleurs, d'autres voix se sont également élevées parmi des juristes, la classe politique et la société civile. Elles ont condamné pareille initiative puisqu'elles frôlent le tribalisme et fragilisent la province. Bandaka, Paul Richard Malengue, la Radio Okapi.
Actualité internationale.
La marche des étudiants à Alger a été empêchée pour la troisième fois. Elle devait se tenir mardi dans la capitale algérienne, mais le dispositif policier était tel qu'elle n'a pu avoir lieu. Plusieurs manifestants des étudiants du mouvement de protestation en Irak ont été arrêtés, si l'on en croit le CNLD, le Comité de libération des détenus. Même scénario à Tizi Ouzou, Constantina Béja, où les manifestations ont été interdites alors qu'elles avaient eu lieu ces deux derniers jours. Madagascar, la grande île, a été particulièrement touchée par la deuxième vague de la pandémie de coronavirus. Face à la montée des cas et la recrudescence des victimes, l'arrivée du vaccin est une source d'espoir. 776 personnes sont officiellement décédées du coronavirus sur les 38 874 cas recensés depuis mars 2020.
L'invité.
Notre invité est Jacques Katembo, coordonnateur de la commission interprovinciale d'appui au processus de sensibilisation, désarmement, démobilisation et réinsertion communautaire au Nord Kivu. Il nous parle des attentes de la commission par rapport à l'état de siège, notamment comment faire pour mettre fin à l'activisme des groupes armés au Nord Kivu. Il s'entretient avec André Kitenge.
Monsieur Jacques Katembo, bonjour.
Bonjour.
L'état de siège est en vigueur depuis le 6 mai dernier dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri. Pensez-vous que cet état de siège vient mettre fin à l'activisme des groupes armés dans la province du Nord Kivu, tel que souhaité par les autorités du pays?
Oui, vous savez que pour le Nord Kivu, il y a 20 ans que les groupes armés sont en train d'attimer la sécurité de la population au Nord Kivu. Alors, on a eu plusieurs démobilisations, DDR, MONUSCO, DDR, FADC, DDR. Nous espérons que la mesure que le président vient de prendre au Nord Kivu, ça va résoudre le problème parce que tous les groupes armés étaient en train d'attendre et de se préparer pour leur reddition. Il fallait qu'on décrète un état de siège où le gouvernement sera militaire et nous espérons que tout ira bien et la province du Nord Kivu sera sécurisée.
Autrefois, les combattants de ces différents groupes armés étaient démobilisés. Mais faute du début de l'opération, ils ont réintégré leurs groupes armés. Et aujourd'hui, que comptez-vous faire pour éviter le premier échec du programme DDR?
Vous savez que si les groupes armés qui s'étaient déjà rendus dans les centres dits de cantonnement étaient retournés à vous, c'était par la mauvaise prise en charge. Le programme n'avait pas commencé et tout s'était déjà prêt pour se rendre. Cependant, le programme s'était arrêté seulement au désarmement. Or, le programme DDR communautaire, ça doit partir du désarmement, des mobilisations et jusqu'à la réinsertion communautaire. Avec la nouvelle donne impulsée par le chef de l'État, nous espérons que tout ira bien. Vous allez vous souvenir que déjà, il y a des groupes armés que nous venons de rencontrer et qui se disent prêts pour la réduction. Nous sommes rencontrés avec les chefs de groupes armés, six généraux autoproclamés, qui ont manifesté déjà la volonté de se rendre et dès à présent, ils sont en train de préparer leurs troupes pour la reddition. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement prendre en compte le programme qui était déjà établi, qui était déjà convenu avec les groupes armés et la MONUSCO. parce qu'il y avait déjà une feuille de route que nous avions déjà signée en partenariat avec la MONUSCO pour définir les plans stratégiques, toutes les étapes qui devaient suivre. Alors, ce programme-là, nous avons déjà les feuilles de route. Nous espérons que ce qu'il faut pour le moment, il faut que le gouvernement puisse donner les moyens et puisse accompagner les DDR communautaires dans son programme, parce que ce programme qui a été initié par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, il lui a imaginé que le programme ne devait pas cette fois-ci s'arrêter seulement à la démobilisation seulement. Il fallait faire une fois pour toute la réinsertion communautaire. Alors, ce qu'il faut faire, nous espérons qu'avec le nouveau gouverneur qui arrive, nous espérons qu'il va nous accompagner dans ce programme. Et avec les groupes armés qui sont déjà sensibilisés et qui sont déjà prêts à se rendre, nous espérons que la province du Nord Kivu sera la première à être pacifiée, parce que tout était déjà fait prêt, la sensibilisation était déjà passée et les groupes armés avaient déjà manifesté. Certains combattants sont dans les centres de cantonnement. Je vous informe qu'aujourd'hui, nous avons plus de 1000 éléments qui sont à Mogambiro, qui sont à Rumangabo, qui sont à Kalunguta. Si le programme pouvait commencer, les autres groupes qui sont dans la brousse sont prêts à se rendre et à entrer dans le processus d'aide communautaire.
Quel message lancez-vous aux différentes milices qui pilulent dans certains territoires du Nord Kivu, notamment Beni, Lubero et Butembo?
Le message que nous avons, c'est de demander aux groupes armés qui sont dans le Nord Kivu, qui s'étaient déjà engagés dans le processus de désarmement, de mobilisation et réinsertion communautaire, de se préparer avec l'état de siège. Le gouvernement va traquer tous les groupes armés qui vont résister. Et ceux-là qui étaient déjà prêts à se rendre, il faut qu'ils se préparent déjà, parce que le programme DDR commence incessamment.
Monsieur Jacques Katembo, je vous remercie.
Je vous remercie aussi.
Fidèles auditeurs de Radio Okapi, nous vous disons aussi merci d'avoir suivi cette édition de la mi-journée sur Radio Okapi. Journal préparé par Élisée Chikota, Alain Rung, prise des soins et mise en onde de Jean-Noël Mukondo, Willy Ivan Lutumba vous l'a présenté. Au nom de toute cette équipe rédactionnelle de Radio Okapi, nous vous souhaitons bien de bonnes choses et sachez que l'actualité se poursuit sur www.radiookapi.net.